Le tout info local avec Armand Gall. La météo.
Pluie aujourd'hui, le parapluie est en cours de sortie avec des maximales jusqu'à ce soir 10 degrés. Ce week-end, pluie toute la journée de samedi et dimanche, une amélioration est à prévoir pour l'après-midi, une amélioration qui arrivera par l'ouest. Cahors sera donc plus au sec dimanche après-midi que Figeac. Comptez demain matin entre 5 et 10 degrés. L'après-midi, 10 à Sévérac-le-Château, Montredon, Rodez et la Capelle Marival, 11 degrés à Quissac et Figeac, 12 à Gramat et Saint-Céré, 13 degrés pour Vérac, Cahors et Villefranche de Rouergue. Dimanche matin entre 5 et 12 degrés, l'après-midi, 14 degrés de maximal. Gardez bien votre parapluie pour ce week-end et si vous habitez l'ouest du Lot, vous pourrez passer une partie de l'après-midi de dimanche au sec. Et tout de suite, voici les informations locales. La météo pluvieuse dans l'Hôte depuis quelques jours annonce le retour et oui des champignons dans les forêts pour le plus grand bonheur des adeptes, mais attention, il ne faut pas négliger les bonnes pratiques lors des cueillettes. Plus de 600 cas d'intoxication en France ont été recensés par le centre antipoison à cause d'une confusion entre différentes espèces ou encore la consommation de champignons comestibles en mauvais état, mal conservés ou insuffisamment cuits. Soyez donc vigilants et assurez-vous d'avoir les bonnes informations. Placés sous la responsabilité de praticiens hospitaliers, ils sont 33 internes à constituer la nouvelle promotion 2023 au centre hospitalier de Cahors. Un chiffre record jamais atteint par l'établissement public, tant en nombre de candidats qu'en termes de provenance géographique. Certains arrivent en effet de Toulouse, d'autres de Lyon, Tours, Bordeaux et Paris, et même de pays étrangers, Algérie, Bénin et Tunisie, dans le cadre d'une convention de coopération internationale. Timbres, cartes postales, monnaie, militaria, le salon des collectionneurs déballe ses trésors à l'espace Valentré à Cahors pour une 48e édition. Une journée pour acheter, vendre ou échanger les perles rares. Rendez-vous le 11 novembre pour les passionnés ou les curieux. Chaque année, ce sont presque 1 000 000 de visiteurs qui franchissent le pas de la porte. Les collectionneurs qui sont à la recherche de la perle rare qui viendra gonfler les rangs de leur collection, mais aussi les curieux qui viennent admirer les objets des autres. La pluie devrait s'inviter tout le week-end sur notre département, mais pas question de la laisser jouer les troubles faites. De nombreux événements sont au programme avec, par exemple, je vous invite à aller à la 23e foire au vin et fromage de France à Anglars-Juillac. C'est organisé par l'association Au plaisir du goût. Elle se tiendra tout le week-end dans la salle des fêtes et sous un chapiteau de 500 m². Très attendue, cette manifestation a pour but de faire découvrir aux visiteurs de très bons produits de France où la gastronomie est un patrimoine. Jeudi 26 octobre s'est tenue pour la deuxième fois à l'état-major cadurcien des pompiers du Lot la journée des membres de la réserve citoyenne. Ce sont tous d'anciens sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS du Lot. À cette occasion, 23 des 28 réservistes étaient présents. La synthèse de fin de journée a permis, au travers des retours positifs, de valider le principe de cette journée et son format. Rendez-vous est donc pris pour 2024. Samedi 28 octobre, il y avait beaucoup de monde à Cahors, du côté d'Emmaüs, zone industrielle d'Anglandière, dans la boutique des jouets malgré sa discrétion. Et oui, on l'a quand même vu, c'est bien le Père Noël qui est passé faire du repérage. À tous ceux qui veulent avoir une chance de le rencontrer ou poursuivre son exemple, rendez-vous pour l'ouverture exceptionnelle d'Emmaüs Cahors, dimanche 12 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Il y aura des affaires exceptionnelles à faire avec d'importantes remises de prix dans les boutiques. Toutes les personnes de bonne volonté se retrouveront chez l'abbé Pierre. Le talent n'entend pas le nombre des années. Le jeune plongeur du club des Compagnons de Neptune de Cahors, Tom Sicard, vient en apporter une nouvelle preuve. Âgé de seulement 9 ans, le cadurcien représentera la région Occitanie lors des championnats de France de plongée qui vont se dérouler ce samedi 4 novembre à la piscine Léo Lagrange du côté de Toulouse. Enfin, pour terminer de la pétanque, la boule figeacoise entamée samedi 28 octobre son championnat des clubs en se déplaçant à Casal. Malgré plusieurs absences liées à de petits pépins physiques, l'équipe a obtenu un succès probant 21 à 19. Allez tout de suite sur votre radio chrétienne locale, c'est l'heure du sujet local.
Présence à Figeac 97.7.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Florence Pernel et Jean-Philippe Daguerre pour la pièce 8e ciel. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, tout d'abord, Jean-Philippe, je souhaiterais savoir quelles ont été vos motivations à justement rédiger cette pièce.
Moi, j'ai pas vraiment de motivation, mais je cherche des sujets comme ça. J'ai un tilt dans la tête et j'ai rencontré quelqu'un un jour qui m'a dit qu'il s'occupait de prendre en charge des gens célèbres et riches au moment de la retraite qui ont eu des grandes activités ou des hommes politiques, des grands chefs d'entreprise, et que c'était son métier. Je trouvais ça étrange d'avoir besoin, quand on a eu un temps de succès dans la vie, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de psychologiquement. Donc ça a été le début du sujet de la pièce.
Je ne savais pas.
Maintenant tu le sais. Ça sert à ça les interviews.
C'est bien, je découvre.
Il y a plein de choses que tu vas découvrir.
Oui, oui, j'ai écouté avec attention.
Et alors, Florent, justement, qu'est-ce qui vous a touché dans le personnage d'Agnès et comment vous l'avez abordé?
Alors, déjà, moi, je voulais absolument travailler avec Jean-Philippe Daguerre parce que j'adore ses pièces, j'aime beaucoup l'homme de théâtre, l'homme tout court.
Très bonne réponse.
Voilà.
Déjà.
Non, mais vraiment, j'avais très envie. Voilà, on se tournait autour, on se disait que ça serait une chose possible, etc. Et quand Jean-Philippe m'a proposé le rôle dans le 8e ciel, donc le rôle d'Agnès Duval, en fait c'est un rôle qui tombe à merveille dans ma vie, d'abord parce que j'ai l'âge du personnage, que c'est une femme qui a réussi, c'est une femme puissante, alors non pas que je sois une femme puissante, mais je pense que dans ma vie j'ai réussi 2-3 trucs, donc j'ai une certaine stabilité, et qu'en fait cette Agnès Duval qui s'est construite contre vents et marées, et je dirais surtout pour elle, et de façon, je dirais, égotique, et certainement très épaulée par un mari qui a accepté d'être dans l'ombre et d'éduquer leur fille, etc. À l'apogée de sa gloire, elle décide de s'arrêter, de prendre une retraite anticipée, et elle pense qu'elle va pouvoir continuer à vivre dans cette forme de confort. Et rien ne va se passer comme prévu, puisque déjà son mari va la quitter, parce que le simple fait de vivre avec elle et non pas à côté d'elle change complètement la donne, et elle va tomber. Ça va, elle chute, et dans cette chute, elle rencontre son jardinier qui va lui ouvrir un monde qu'elle ne connaît pas, puisqu'il va lui proposer d'être remplacée par un couple de migrants géorgiens qu'elle accepte un peu de mauvaise grâce. Et petit à petit, elle va s'apercevoir que s'occuper d'autre chose qu'elle-même va certainement lui ouvrir un autre monde, une forme de rédemption, une forme de 8e ciel.
Et justement, en parlant du mari, je trouve qu'il a quand même des propos assez durs à l'égard de sa femme.
Oui, c'est sans doute des propos durs, mais je trouve que ce sont des propos très justes. C'est-à-dire que cette pièce, au fond, on donne raison au mari, mais on donne aussi raison à Agnès. Tous les deux ont raison, quelque part, dans leur position. C'est juste qu'on ne peut pas sauver le monde, c'est juste. C'est juste qu'on n'est pas forcément faite pour ça. Mais elle va essayer de lui prouver que justement, on peut, en choisissant un autre chemin, une seconde chance, qui est souvent le cas dans le théâtre de Jean-Philippe Daguerre, on peut avoir accès à un autre monde, une autre culture, et s'ouvrir à l'autre, grandir.
Alors dans cette pièce, on rit énormément. Je voulais savoir quel était votre parti pris artistique du point de vue de la mise en scène.
Moi, j'ai pas de point de vue en soi. Il y a tout d'un coup des choses qui apparaissent. Je travaille un peu sans vouloir faire le malin à l'inspiration, et quand j'écris, quand je mets en scène. Donc les choses, elles apparaissent assez vite, instinctivement. Donc non, le parti pris, j'ai pas un parti pris. J'essaye de diriger un jeu assez droit, assez rythmé. J'aime un théâtre qui soit direct et non pas un théâtre qui soit trop cinématographique. J'essaye de ne pas confondre, j'adore le cinéma, mais j'essaye de faire qu'on ne joue pas au théâtre comme dans la vie. Les temps de la vie ne sont pas les temps du théâtre. Donc je demande à quelque chose un peu plus investi, un peu plus rythmé. On ne prend pas les mêmes temps. Il ne faut pas tomber dans un théâtre de conversation. J'aime un théâtre d'action qui avance, tout d'un coup il y a du suspense, il y a des émotions. J'aime bien créer cette tension presque présente, et non pas quelque chose d'un petit peu posé où on discute. Je n'aime pas le théâtre de discussion, j'aime un théâtre d'engagement.
C'est vrai, je confirme.
Et est-ce que tous les deux, vous pensez que cette pièce a peut-être vocation à mettre fin aux préjugés qu'on peut avoir à l'égard des bourgeois un petit peu ?
C'est une pièce dont on ne sort pas, je dirais pas indemne, c'est un grand mot, mais en tous les cas, je pense que c'est une pièce qu'une fois que vous la quittez, il y a une envie de conversation et il y a une envie de discussion par rapport à un vrai sujet, parce qu'il y a plusieurs sujets abordés. Il y a effectivement qu'est-ce que c'est que la vie après avoir eu une activité professionnelle intense, à succès, etc. Qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête ? Et aussi, qu'est-ce que c'est que s'ouvrir à l'autre ? Qu'est-ce que c'est qu'accepter une culture différente, un monde différent, des souffrances différentes, finalement, dans un monde, en tous les cas, dans le monde d'Agnès Duval et de Pierre Duval, un monde protégé,
Par exemple, quand on fait du théâtre, on a toujours envie de changer le monde, mais c'est toujours pareil, le monde il est petit, il est grand. Donc le petit monde qui vient, on a toujours envie de faire écho à ça. C'est pour ça qu'on est client en tant que spectateur du théâtre, parce qu'on a toujours envie de penser que ça change un peu les choses. On pense que le théâtre dans une société est un peu obligatoire, est essentiel. Donc c'est vrai que nous on défend un théâtre en pensant que c'est essentiel, mais on sait très bien que malheureusement ça ne suffira à ces petites gouttes d'eau, mais la goutte d'eau elle fait
la rivière.
Elle fait la rivière, donc voilà, c'est une goutte d'eau de plus dans la rivière, en espérant de donner envie d'avoir confiance dans les gens, de se livrer, d'enlever un peu les préjugés qu'on peut avoir et de comprendre que les petits ont besoin des grands et les grands ont besoin des petits. Ça c'est un peu le message le plus important, c'est le besoin des uns et des autres avec humilité et la notion d'amour, qu'elle soit chez les pauvres, chez les miséreux, chez les migrants ou chez les riches, ou les autres, elle est la même. La notion de l'amour d'un enfant ou de l'amour d'un couple, de réussir cette vie-là, ce pari-là, ça n'a pas d'étiquette ni de nationalité, ni de raison sociale. C'est un truc d'humain et donc il faut qu'on remette l'humain au centre du théâtre et au centre de nos vies. C'est pour ça que j'ai eu envie de raconter cette histoire avec optimisme.
Et alors une des particularités de cette pièce, c'est qu'il a de nombreuses références, notamment à Buster Keaton à un moment donné. Mais il y a aussi la présence de la musique, notamment de la pratique du violon. En quoi c'était important pour vous ?
Parce que j'adore mélanger la musique toujours dans mes spectacles. Je suis un fan de musique et c'est vrai que j'aime bien trouver toujours des formes artistiques qui font partie de la vie des protagonistes de mes pièces. Donc c'est pour ça que c'est pour moi important. Et puis Buster Keaton, ça, le cinéma, c'est vraiment d'une anecdote que j'ai vécue en allant à Marrakech en avion, où on était dans un avion avec des gens de toutes les religions et avec des gens très croyants, des Arabes, des Juifs, des Français, de tous les... Et tout d'un coup, il y a eu un extrait sur la vidéo d'un film de Buster Keaton et tout l'avion s'est mis à rire ensemble et j'ai trouvé ça magnifique comme symbole. Donc j'ai tout de suite pensé à Buster Keaton, à cette scène qui m'avait bouleversé, voir comment tout d'un coup toutes nos cultures, toutes nos origines, tous nos a priori face à un type de génie, face à l'art, face au clown, face à la comédie de la vie, tout d'un coup on est ensemble et on rit ensemble.
Justement, par rapport à votre personnage, le violon aussi correspond à l'éclosion du personnage aussi.
Oui, parce que c'est un instrument qu'elle avait pratiqué quand elle était petite et on comprend que quelque part elle a mis beaucoup de choses de côté dans sa vie, certainement pour réussir. Et je pense que pour réussir à ce niveau-là, il faut vraiment tuer beaucoup de choses de sa personnalité pour être sur un seul rail. Et être une femme puissante, une femme qui dirige, donc qui dit BTT dit forcément des équipes, donc beaucoup d'équipes d'hommes, etc. Donc c'est une femme masculine et je pense qu'elle a certainement mis beaucoup de sa sensibilité, de son émotion de côté. Et étant donné qu'elle a été aussi très épaulée par son mari qui a pris, je dirais, cette place-là dans sa vie, d'ailleurs elle le dit, tu ne m'as jamais laissé de place pour m'occuper des autres, parce que je pense qu'elle n'avait pas le temps et qu'elle ne s'est pas accordé ce temps. Et donc le violon revient effectivement, elle se remet à jouer et elle retrouve des sensations, c'est ce qu'elle dit. Donc c'est un voyage, c'est vraiment une traversée qu'elle fait pour se redécouvrir elle-même. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup dans le théâtre de Jean-Phi, c'est que elle dit à un moment donné que elle le fait pas seulement pour eux, elle le fait avant tout pour elle. Et c'est vrai, je pense qu'en fait on fait du bien aux autres, certainement aussi pour se faire du bien à soi. Et ça c'est très important parce que il y a dans la bonté au fond quelque chose de bon pour soi. Et j'aime ce qui est dit dans cette pièce pour ça.
Et un des autres aspects aussi évidemment importants, c'est le lien aussi mère-fille.
Ah oui.
Parce qu'on a l'impression que votre personnage est un petit peu défaillant de ce point de
vue. Encore une fois, je pense que c'est une femme qui a mis absolument tout de côté pour réussir, pour être au sommet de son métier. Et donc la fille, quelque part, elle l'a laissée élever par son père. Ça l'a bien arrangée. Encore une fois, ce sont des arrangements de couple qui ont duré pendant des années et qui là, tout d'un coup, éclate et donc le couple ne se retrouve plus. Et effectivement, il y a une incommunabilité entre la fille et la mère parce que certainement que pendant toute l'enfance de la petite fille, il n'y a pas eu cette communication. Elle a relayé, quoi. Et là, elle est confrontée et les enfants vous renvoient toujours ce que vous leur avez donné ou pas. Et donc la fille lui renvoie son incapacité de mère. Et ce qu'il y a de beau, c'est que justement, avec les migrants, elle retrouve une forme de maternité, oui, de tendresse, d'abandon, qu'elle avait totalement occulté jusque-là.
Et alors, un des autres aspects également, il y a cette chaise qui pour moi est un petit peu vecteur du drame lié au couple. En vrai, c'était important d'utiliser justement un objet qui correspond à ce moment-là.
J'aime bien regarder c'est cette forme de fauteuil électrique.
Fauteuil de compétition.
De compétition qu'on lui a offert à la retraite. Et c'est vrai que j'aime bien symboliquement cette trace d'un objet qu'on suit au fur et à mesure de son évolution. Au moment où il est mis de côté, puis à la fin, je vais pas révéler la fin, parce qu'il y a quand même un coup de théâtre. Tout d'un coup, il devient l'endroit, en tout cas l'endroit de la naissance. Après, c'était le symbole de la petite mort de la retraite. Finalement, c'est celui de la renaissance. Donc c'est vrai que j'aime bien utiliser parfois des objets un peu qui deviennent un peu vivants. Et j'essaye d'en faire un objet vivant au sein du théâtre vivant.
Et quel procédé vous avez utilisé pour rendre les personnages de Tasha et Masha éminemment affectueux et intéressants?
Je pense que l'art de l'acteur y est pour beaucoup. Je pense que c'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai que le théâtre, c'est toujours le comédien qui est au centre de tout. Vous avez beau imaginer quoi que ce soit, écrire quoi que ce soit, celui qui transcende la parole et l'évidence, c'est le comédien. Donc là, voilà, dans chacun d'entre eux, c'est vrai que eux, sur un pari, on n'est pas là pour faire quelque chose de réaliste. Ils font des migrants géorgiens, ils sont français. Mais il y a c'est une façon de s'emparer. Parfois, quand on s'empare de quelque chose qui a l'air d'être un peu lointain, on y met un tel cœur à le faire bien, essayer de rendre ce qui sort, qu'elle sort rend les choses encore plus magiques que si on prend des vrais géorgiens. C'est pas que j'ai rien contre les acteurs géorgiens ou autres, mais j'aime bien parfois cette distance qui permet à l'acteur d'incarner quelque chose qui agrandit les choses. Et je trouve qu'ils réussissent vachement le pari, qui est un pari difficile.
Ouais. Bien, merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci à vous tous.
Merci.